Racine de Moisin, une émission de critique des sciences, des technologies et de la société industrielle, présentée par Radio Zinzine.
Bienvenue à cette nouvelle émission de Racines de Moisin. Aujourd'hui, on reçoit Philippe Baquet qui nous présente son livre Homme augmenté, humanité diminuée, d'Alzheimer au transhumanisme, la science au service d'une idéologie hégémonique et mercantile. C'est paru aux éditions Agone dans la collection Contrefeu à la fin de l'année 2017. Cet ouvrage est une enquête journalistique assez fouillée qui commence avec ta mère qui est diagnostiquée Alzheimer. Et tu déroules le fil de l'enquête jusqu'au transhumanisme, cette idéologie assez scientiste qui prétend abolir la mort et qui considère la vieillesse comme une espèce de problème technique à résoudre par différents moyens biotechnologiques, voire ultra-technologiques pour certains. Donc voilà, c'est une enquête que tu as commencé il y a assez longtemps quand même.
Moi je l'ai commencé en 2003 quand justement ma mère s'est retrouvée dans cette chambre d'hôpital d'un EHPAD, établissement d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes. Voilà, et moi j'aurais jamais pensé écrire un livre sur Alzheimer ou sur le transhumanisme, j'étais dans tout un tas d'autres thèmes. J'ai commencé, comme pour moi le journalisme, c'est surtout avant tout c'est un outil pour essayer de comprendre le monde dans lequel je vis. Donc je commençais à me poser des questions par rapport à ce que je voyais dans cet hôpital, et puis par rapport à ce qu'on me présentait de la maladie d'Alzheimer, et puis par rapport à tous ces médicaments qu'on faisait prendre aux personnes qui étaient là, par rapport à une espèce de maltraitance institutionnelle que je constatais. Voilà. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à me poser des questions aussi sur effectivement l'omniprésence des laboratoires pharmaceutiques, notamment dans, par exemple, la littérature qu'on donnait aux familles des patients qui étaient dans cet hôpital. Tous les livres étaient écrits ou financés par les laboratoires pharmaceutiques qui vendaient les pseudo-médicaments anti-Alzheimer. Et puis voilà, après j'ai commencé mon enquête et tous les colloques qui portaient sur la maladie d'Alzheimer étaient tous organisés par les mêmes laboratoires pharmaceutiques. Je me suis rendu compte, j'ai commencé à me documenter, à poser des questions, à rencontrer, à faire des interviews de spécialistes, d'aides-soignantes, de familles. Je me suis rendu compte que j'étais dans le cadre d'une médecine qui considérait une médecine dominante, qui ne se considérait la santé que sous l'angle de causes purement biologiques et neurologiques. Tout ce qui était humain, culturel, sociétal, histoire de la personne, psychologique, environnemental, tout ça a été complètement balayé parce qu'il faut vendre des médicaments, il faut trouver des molécules et vendre ces médicaments.
Ouais, c'est une approche purement biologique du vieillissement, en fait.
C'est ça, ouais.
Qui est ultra
médicamentisée,
oui. Et parce que, enfin, dans ton livre, tu racontes qu'il y a, dans certains établissements, il y a vraiment les gens qui prennent des dizaines de médicaments, et ça fait un cocktail assez explosif, enfin, en tout cas, dont on ne connaît pas les conséquences sur, sur la santé des personnes qui prennent ces
médicaments. Il n'y a aucune étude de portée qui porte là-dessus. Et pourquoi ces médicaments? C'est un peu, on arrive à la racine du mouvement social qui se passe aujourd'hui dans beaucoup d'EHPAD et d'hôpitaux, mais surtout dans les EHPAD, et ça c'est nouveau. Pour la première fois en France, il y a eu deux grèves nationales dans les EHPAD, suivies par plus de 30% du personnel, des aides-soignantes et des infirmières, les autres étant réquisitionnés.
Y compris d'ailleurs les directeurs. Certains directeurs d'EHPAD aussi.
Le syndicat des directeurs a soutenu la grève, parce qu'il y a une déshumanisation totale. Dans la plupart des EHPAD, pas dans tous les EHPAD, il y a des EHPAD qui suivent une autre voie, qui essaient de mettre en place quelque chose de différent, j'en parle dans mon bouquin, mais souvent ces expériences ne durent pas. Donc, manque de personnel non formé, c'est une politique pour faire face aux crises d'angoisse ou à l'auto-agressivité des personnes qui se retrouvent dans des lieux souvent quand même qui leur font perdre tous leurs repères. Voilà, dès qu'il y a un petit problème, c'est tout de suite des médicaments, des anxiolytiques, pour les faire dormir, pour les calmer. Quand ils sont constipés, on va leur faire prendre des médicaments, puis après on leur en donne trop, après il faut les constiper, en leur faisant prendre d'autres médicaments, tout en faisant prendre... Enfin bon, ça fait à la fin, ça c'est pas... que ce que j'ai constaté, ce sont des enquêtes et des témoignages de médecins qui disent qu'on arrive jusqu'à 20 médicaments par personne âgée. C'est la France et le pays au monde qui donne le plus de médicaments à ces personnes âgées. Donc effectivement, ça fait des cocktails. Et par exemple, dans le cas de ma mère, elle s'est retrouvée, elle a été massacrée par un médicament qui s'appelle l'Equanil. Sa prescription était généralisée à toutes les personnes âgées. C'est un médicament qui servait avant pour les personnes qui étaient en sevrage d'alcool. Et là, donc, c'était pour la calmer. Dès qu'elle avait commencé à être un peu agressive, et puis que toutes les personnes autour d'elle, c'était pareil. Sauf qu'elle aurait dû en prendre un ou deux pendant quelques jours, et ils en ont donné quatre pendant trois semaines. Donc finalement, elle s'est retrouvée dans le coma, puis grabataire, et elle est passée dans une autre unité, où là, c'était vraiment, pour moi, entre guillemets, une espèce de mouroir. Et quand je suis allé voir le docteur qui était dans cet EHPAD pour lui demander ce qui se passait, il m'a dit, mais c'est le déroulement normal de la maladie d'Alzheimer. La grabatisation, et là... pour avoir des informations sur les médicaments, c'était impossible. Et donc, dans mon enquête, j'ai interviewé des gens qui avaient un regard critique. Notamment, il y a un livre qui s'appelle « Le mythe de la maladie d'Alzheimer » qui a été écrit par un neurologue américain qui a, lui, participé à ce qu'il appelle la création de l'Empire Alzheimer dans les années 80, donc a travaillé avec les labos, et qui explique de l'intérieur comment on est allé sortir les travaux de Lewis Alzheimer qui avaient été menés en 1906 sur un cas ou deux, sur des cas bien précis, notamment des personnes plutôt jeunes, enfin, cinquantaine d'années, qui présentaient des cas de présénilité. Et lui a mis au jour les plaques séniles. Et lui ne parlait pas d'une maladie. C'est son chef de laboratoire qui, à l'époque, en conflit avec Freud, avait besoin déjà de montrer que toute démence avait une cause biologique, a fait la maladie d'Alzheimer une maladie. Tout ça s'est tombé un peu dans l'oubli et c'est ressorti dans les années 80, quand aux États-Unis, on s'est rendu compte, certains lobbies se sont rendus compte qu'avec l'allongement de l'espérance de vie dans les pays développés, on avait en face un marché énorme qui s'ouvrait, tous les vieux, entre guillemets, qui commençaient un peu à perdre la tête, qui étaient sujets à des pathologies liées à la vieillesse, et il fallait médicaliser tout ça. Il fallait trouver le vaccin miracle, et pour ça, on est allé ressortir les travaux d'Alzheimer, les plaques séniles, et on a généralisé la maladie d'Alzheimer, et c'est devenu... Ce que je dis dans mon bouquin, moi ça m'a choqué parce que j'ai lu un bouquin de Simone de Beauvoir écrit en 1970, un bouquin de 300 ou 400 pages dans lequel elle ne cite qu'une seule fois la maladie d'Alzheimer dans une liste, dans une catégorie de démence touchant le grand âge. Et 5 ou 10 ans après, c'est devenu une épidémie et aujourd'hui encore, c'est toujours le rouleau compresseur. Les chiffres sont tous de plus en plus fous. Et ce que disait Robert Butler, c'était le chef de l'Institut du vieillissement aux États-Unis qui a participé à la création de cette Empire Alzheimer. Il faut faire la maladie d'Alzheimer un nom connu de tous, une cause nationale. C'est ce que j'appelle la politique sanitaire de l'angoisse. Donc cette politique sanitaire de l'angoisse continue. J'ai lu aussi le livre d'un psychiatre qui s'appelle Jean Maisondieu, qui est très intéressant, qui s'appelle Le crépuscule de la raison. Je conseille aussi sa lecture. Et il a une approche totalement différente, lui. Il n'est évidemment pas dans l'unique cause biologique. Pour lui, la maladie d'Alzheimer est une maladie sociale, collective. Il dit la maladie d'Alzheimer n'existe pas, un peu ce que dit aussi Peter Whitehouse avec son livre Le mythe de la maladie d'Alzheimer, mais les malades existent. Effectivement, il y a effectivement des pathologies, il y a des cas qui sont indéniables, liés soit au vieillissement, soit à des causes très certainement neurologiques dans certains cas, causes environnementales, causes... Bon. Maisondieu dit que notre société niant totalement la mort et la vieillesse, les personnes âgées se retrouvant totalement isolées pour la plupart, face à cette annonce inexorable d'un drame à venir, le vieillissement et la mort, inconsciemment se déclencherait cette maladie pour se réfugier dans le passé, se couper du présent. Pour moi, c'est une approche intéressante, mais qui n'a développé aucune étude. Moi, quand j'interviewais les grands alzheimerologues, c'est ce que j'ai fait pour une enquête du Monde diplomatique.
En février 2016, on peut encore lire l'article sur le site du Monde diplomatique.
Donc chaque fois que j'interviewais ces grands alzheimerologues, qui sont tous des neurologues, et que je citais le nom de Jean Maisondieu, ils avaient tous des petits sourires, de haussement d'épaule, quoi. Un mépris total pour l'approche de ces psychiatres, de ces gériatres. Il faut dire que dans les EHPAD, la présence des psychologues sont souvent à mi-temps. On leur donne la mission de traiter les dossiers des familles, enfin des personnes qui sont en attente pour entrer dans l'EHPAD, mais un soutien psychologique aux personnes qui sont dans l'EHPAD et qui en ont énormément besoin, il n'y en a pas. Ouais. Toutes les revendications des aides-soignantes et des infirmières portent toutes là-dessus, sur toute cette maltraitance institutionnelle. Elles demandent de l'embauche, de la formation, la reconnaissance de leur travail. Et aujourd'hui, la seule réponse du gouvernement, bon, c'est 50 millions, c'est une espèce d'aumône pour les faire taire. Mais en même temps, moi j'ai découvert, que ça j'ai découvert en janvier, mais ça fait déjà quelques mois, beaucoup d'EHPAD avec des financements publics achètent des robots. On préfère, au lieu d'embaucher des humains et de les former qui apporteront une présence humaine et psychologique et affective, on achète des robots, notamment un petit robot, un bébé phoque qui s'appelle Paro, qui a un programme d'intelligence artificielle avec le dossier médical de la personne, du patient. Il coûte 7000 euros. Chaque robot coûte 7000 euros. Ce sont des centaines de robots qui ont été achetés par les EHPAD. Et c'est même une infantilisation des personnes qui se trouvent dans ces établissements. C'est un robot qui a été créé par une start-up japonaise. Mais il faut savoir que dans la région parisienne, il y a une Silver Valley. Il y a la Silicon Valley et la Silver Valley. Ce sont 300 start-up qui recherchent uniquement des innovations par rapport à l'économie des seniors, ce qu'ils appellent les seniors.
D'où le nom Silver, puisque c'est la couleur des cheveux.
Voilà. Pour les EHPAD, effectivement, de plus en plus de robots. Ça pourrait être par exemple, des habits connectés avec le nom de la personne pour pas mélanger les habits des résidents. Ce sera des pilules connectées pour être sûr que les résidents prendront leurs médicaments. Des couches connectées, des montres connectées. Enfin, c'est la télémédecine qui se met en place et qui va remplacer petit à petit les humains. Tout ce qui est e-santé va remplacer de plus petit à petit. Ça, c'est un programme. C'est pas une anecdote, c'est un programme du gouvernement.
Qui est soutenu assez largement. D'ailleurs, il y avait un numéro spécial du Monde assez récent qui s'appelle Dans la tête des robots. Il y a deux pages aussi qui sont consacrées justement à ces robots d'assistance aux personnes âgées, dont certains ils essayent en tout cas de développer des robots qui seraient capables de porter des personnes et donc faire une assistance physique assez importante.
Ça existe déjà, c'est des assistants aux aides-soignantes. Ouais. Mais la logique est en train de se mettre en place aujourd'hui, c'est qu'il n'y aura plus d'aides-soignantes.
Parce que dans d'autres métiers aussi, il y a de plus en plus de robots ou d'informatique qui sont introduites. Enfin, je pense aussi aux hôpitaux, où de plus en plus les soignants doivent remplir des formulaires pour enregistrer leurs actes, etc. Ça leur prend un temps fou. Dans une précédente émission de Racine de Moins 1, on avait parlé aussi avec d'autres personnes de la robotisation des métiers. Et il se trouve qu'il y a de fortes chances aussi que les aides-soignants dans les EHPAD soient obligés d'assister les robots qui auraient quelques petites défaillances ou des problèmes de connexion, etc. Ils seraient obligés de faire ce genre de boulot. Les personnels seraient obligés de faire aussi de s'occuper des robots en plus des personnes âgées et de toute la partie connexion et fonctionnement correct de ce genre de machine en plus, quoi.
Et cette télémédecine, de toute façon, va être généralisée pour faire face, par exemple, à la désertification médicale qui, en France, se généralise. La réponse du gouvernement, c'est la généralisation de cette télémédecine. Bientôt, il y aura des plateformes, c'est-à-dire les personnes sont hospitalisées à domicile. Il n'y a plus de contact direct avec le médecin. Il y a des téléconsultations, télédiagnostics, téléassistance, télésurveillance et tout ça. Donc, on donne des tablettes aux personnes qui restent chez elles, des fauteuils connectés. Et en fait, il y aura des espèces de plateformes avec tout un tas d'écrans et une infirmière ou peut-être un ingénieur bientôt qui surveillera tout ça, qui préviendra à un moment donné, puisque les personnes, ce sera aussi basé sur les téléphones portables aussi, ont de plus en plus d'applications d'autosurveillance médicale. L'infirmière ou l'ingénieur de surveillance préviendra un médecin s'il y a besoin à un moment donné. Tout est fait pour qu'il n'y ait plus aucune relation humaine. Et puis on peut même en projeter dans la logique économique qui se met en place, que ces plateformes ne seront même plus en France, mais seront décentralisées en Roumanie ou en Tunisie.
Il y a déjà les plateformes téléphoniques.
Sur le même modèle. Cette télémédecine prépare ce genre de médecine.
Et du coup, c'est une médecine soi-disant automatisée. C'est-à-dire où il y aura en gros une médecine à deux vitesses, c'est-à-dire les gens qui auront ces assistants connectés et ceux qui auront un peu plus de moyens qui pourront se payer un vrai médecin.
Par rapport à mon livre, parce que pour expliquer comment je suis arrivé de la chambre d'hôpital de ma mère à la Silicon Valley, c'est un livre que j'ai écrit à la première personne, hein, avec tous mes doutes, tous mes questionnements. Hein. Et donc, c'est vrai qu'après la maladie d'Alzheimer, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, comme ça a été un échec pour les laboratoires pharmaceutiques, ils n'ont jamais trouvé de vaccin. Les médicaments qu'ils ont trouvés ont été controversés et aujourd'hui sont pratiquement plus prescrits suite à un combat de médecins, d'associations de médecins ou de la revue Prescrire. Comme les laboratoires pharmaceutiques ne peuvent pas rester face à un échec, aujourd'hui, la maladie d'Alzheimer ne concerne plus les personnes de 80 ans, mais les personnes de 50 ans. Oui. Et on fait des diagnostics, on multiplie, on généralise les diagnostics précoces avec des campagnes médiatiques.
C'est la médecine prédictive.
C'est la médecine. Avant, on avait une médecine qui soignait, standardisée. Maintenant, on glisse vers une médecine qui ne soigne plus. Et on verra que petit à petit, on va aller vers une médecine après qui améliore, et puis après qui va augmenter. Alors, on va mettre un pied vers le transhumanisme. C'est une médecine préventive. Ça, c'est une médecine donc personnalisée, une médecine des 4 P, c'est-à-dire personnalisée, préventive, prédictive et participative. Participative, c'est tous les objets connectés dont on vient de parler. Personnalisée, parce que cette médecine ne s'adresse plus que maintenant cible de plus en plus des catégories de patients. Elle est cible avec la recherche de biomarqueurs dans le sang, avec des imageries de plus en plus sophistiquées, ou maintenant avec la recherche de gènes, qui est rendue possible par tous les progrès qu'a connu le séquençage du génome humain. En 2003, c'était une opération phénoménale qui a coûté très très cher, qui mobilisait des milliers de chercheurs et qui prenait beaucoup de temps. Aujourd'hui, et même demain, on pourra faire le séquençage du génome d'une personne. Le génome, c'est l'ADN, hein, tous les gènes porteurs d'informations au sein des chromosomes des humains. On pourra faire le séquençage génomique d'un individu en quelques minutes pour... aujourd'hui, on peut parler de 100 euros, mais peut-être qu'un jour, ça sera tellement banalisé, ça sera 10 euros et ça sera en quelques minutes. Donc, il y a une généralisation, une systématisation du séquençage génomique qui accompagne le développement de cette médecine. Parce que, en même temps que le séquençage génomique, il y a de plus en plus de recherches. Moi, j'ai vu, par exemple, j'ai interviewé Philippe Amouyel, qui est à la tête d'un consortium européen qui fait des recherches, justement, des gènes de susceptibilité de la maladie d'Alzheimer. Ils en ont trouvé 24. Il y a 400 maladies aujourd'hui qui sont identifiées par des gènes de susceptibilité. Donc, quand on fait le séquençage génomique d'une personne, on va rechercher ces gènes et on va trouver... Alors, je pense qu'on est tous porteurs de mutations génétiques. Ouais. Donc, on va trouver tous les risques et les probabilités de développement de maladies dont est porteur cette personne. Que ce soit le cancer, Alzheimer, Parkinson, ou le diabète, ou maladies, tout un tas de maladies. Ou après même, ça va plus loin, sur la myopie, la calvitie... Là, c'est une médecine qui se réduit aux biomarqueurs, c'est-à-dire tout ce qui est recherche des peptides, comme pour la maladie d'Alzheimer, peptides bêta-amyloïdes, ou là, de plus en plus, uniquement les gènes. Donc on va vers une médecine qui va se réduire au codage génétique des individus.
C'est l'idée d'un programme génétique, c'est-à-dire que l'ensemble des caractéristiques d'un être humain sont déterminées quasiment exclusivement par le génome, les gènes présents. Et bon, ça c'est une idée assez ancienne et qui, en 50 ans, a été constamment démentie par toutes les recherches faites par les généticiens eux-mêmes sur un certain nombre de caractéristiques. Bon, on peut citer assez récemment tout ce qui concerne l'épigénétique, où l'expression des gènes est modifiée par un certain nombre de facteurs propre à la cellule, au métabolisme des organismes, etc., et à l'environnement aussi. Mais ces causes environnementales là, elles sont en général évacuées, notamment sur la recherche sur le cancer. Il y a de plus en plus de pesticides dans l'alimentation, etc. Ça passe à la trappe et on essaye de soigner les de remédier aux conséquences de ce genre d'empoisonnement et pas aux causes qui sont d'ordre social, politique et aussi écologique, quoi.
Exactement. On peut prendre l'exemple, par exemple, de la maladie de Parkinson. Là, je trouve que par rapport à cette maladie, bon, on est dans le flou le plus total et au carrefour de tout un tas de contradictions. Bon, il y a des paysans qui ont mené un combat et qu'ils ont fini par gagner. Ils ont mené le même combat pour la maladie d'Alzheimer, mais ils l'ont perdu, dont le but était d'associer le développement de la maladie de Parkinson aux pesticides, de faire reconnaître la maladie de Parkinson comme maladie professionnelle. Ça a été reconnu comme une maladie professionnelle. Sauf que dans le même cas, dans le même temps, les chercheurs ont identifié des gènes de susceptibilité de la maladie de Parkinson. Et même dans Clinatech à Grenoble, on a mis au point un implant qu'on met dans le cerveau, un implant cérébral qui permet de limiter le tremblement des personnes qui sont victimes de cette maladie. Oui. Alors aujourd'hui, voilà, est-ce que Parkinson, maladie génétique, maladie environnementale, la médecine dominante en tout cas reste mordicus sur le même sujet. Pour elle, c'est uniquement génétique. Alors, ce que je vous disais par rapport, puisqu'on a abordé le génome, et qu'il faut en venir au transhumanisme, c'est vrai que la généralisation du séquençage génomique a eu deux conséquences. La première, c'est l'introduction de ce qu'on appelle le big data, les GAFA, dans la santé. Et aujourd'hui, ils sont en train de prendre le pouvoir. Les GAFA, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook, on en parle beaucoup avec le scandale de Cambridge Analytica, Apple, ça peut être Microsoft, PayPal, tous ces gens, toutes ces énormes sociétés qui sont plus puissantes que des États, puisque les quatre principales ont une capitalisation de 4000 milliards de dollars, ce qui représente deux fois le PIB de la France. À la tête, il y a des personnes qui sont dans la toute-puissance et qui se permettent, avec les moyens qu'ils ont, de pouvoir satisfaire tous leurs fantasmes. Donc, parce que ces séquençages, cette généralisation, on parle en 2025 d'un milliard d'humains dont le séquençage du génome aurait été effectué. Oui. Donc il faut les stocker, il faut les analyser. Et ça, c'est le big data qui peut les stocker. Aujourd'hui, il y a énormément de sociétés qui sont créées par ces GAFA pour stocker les informations des hôpitaux, des universités, de la sécurité sociale et tout ça. Et c'est eux qui ont le pouvoir au niveau de la santé. Et les big pharma qui, eux, vendaient leurs médicaments sont soit associés, soit en concurrence avec ces nouveaux acteurs de la santé qui sont envahissants. Et on va voir que ça va jusqu'à l'intelligence artificielle. Mais la deuxième conséquence, c'est l'introduction d'une possibilité de l'eugénisme dans la médecine. Alors là, on n'a même pas besoin d'aller jusqu'au transhumanisme pour s'en rendre compte. C'est que, par exemple, aujourd'hui, un certain nombre de femmes enceintes en France subissent un dépistage prénatal. C'est-à-dire, jusqu'à présent, il fallait faire une amniocentèse pour prélever du liquide amniotique. Et en France, on a décidé d'éradiquer la trisomie 21. Et on arrivait à détecter si le fœtus était porteur de la trisomie 21. Et on proposait à la mère une interruption de grossesse. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire ça. Dans le sang de la mère, on trouve le sang du fœtus. Donc, on va réussir, dans les laboratoires, à isoler les cellules de l'enfant et de pratiquer systématiquement un séquençage génomique de l'enfant et de détecter dans le fœtus toutes les maladies dont il serait porteur. En France, c'est limité à la trisomie 21, à la recherche cas par cas de maladies orphelines quand les parents sont porteurs. Mais il y a déjà des pays qui en sont plus là du tout, notamment aux États-Unis, il y a tout un tas de sociétés qui se créent, qui se spécialisent dans la recherche de ces gènes de susceptibilité. Mais on n'en reste pas là, aujourd'hui ça va beaucoup plus loin. Ce n'est plus le fœtus qui est la cible de la recherche, ce sont les embryons. Comment on en est arrivé à l'embryon? C'est parce qu'il y a eu une découverte qui s'appelle le CRISPR-Cas9. C'est une chercheuse française et une chercheuse américaine qui ont identifié. C'est une enzyme d'une bactérie. Donc, en la contrôlant, on peut la faire entrer dans un génome et s'en servir. On parle d'édition génomique, soit pour copier-coller les gènes, en introduire d'autres, enfin multiplier d'autres gènes, pour essayer de manipuler les informations génétiques et essayer d'aller vers éventuellement un bébé parfait. En 2012, elles ont identifié CRISPR-Cas9. En 2014, je crois, ou 2013, il y a eu les premières expériences sur les génomes des animaux. Et très vite, en 2015, on a fait les premières expériences sur les génomes humains en Chine et aux États-Unis. Là, il s'agit d'intervenir sur des embryons issus de fécondation in vitro. On se retrouve souvent face à 10, 20, 30, 40. Et aujourd'hui, on multiplie les embryons. Et on va faire le séquençage génomique de ces embryons et essayer d'intervenir. Les expériences qui sont menées aujourd'hui, qui sont généralisées, totalement hors contrôle, on essaie d'intervenir, d'éradiquer certains gènes, ou de rajouter certains gènes, voir ce que ça fait. Aujourd'hui, en tout cas, officiellement, il n'y a aucun cadre, sauf en Europe, il y a la convention d'Oviedo, mais dans les autres pays du monde, il n'y a aucun cadre qui interdit que ces embryons soient remis dans le corps de la femme et deviennent des êtres vivants. En France, dans le cadre d'une fécondation in vitro, on fait ce qu'on appelle un diagnostic préimplantatoire des pays. On recherche donc effectivement certains, ça peut être trisomie 21 ou des maladies orphelines, et on essaie de choisir, de faire un tri dans les embryons pour choisir l'embryon qui a le plus de chances d'être vital pour l'introduire dans le ventre de la mère et faire un bébé. Mais très vite, on peut basculer vers autre chose. Vers effectivement des recherches plus généralisées et éliminer tous les embryons qui présentent certains risques, maladies d'Alzheimer ou qui ont les yeux noirs ou qui ont un risque de calvitie ou voilà. Donc, et ça c'est la porte ouverte à l'eugénisme, au fantasme du bébé parfait. Alors aujourd'hui, on fantasme, beaucoup fantasme aussi sur le. En Chine, hein, des chercheurs chinois sont en train d'identifier et d'isoler le gène de l'intelligence. Ce qu'on me dit chaque fois, ils peuvent faire aussi la recherche du gène de la connerie. Pour éventuellement, si on prétend détecter le gène de l'intelligence, essayer de l'isoler, de le multiplier dans le génome d'un bébé pour faire des bébés parfaits. Et on sera de Bienvenue à Gattaca, qui est un film de fiction visionnaire. C'est que pour moi, c'est que du fantasme. Qui peut devenir réalité et même pire que du fantasme, parce que CRISPR-Cas9 n'est pas encore une technique maîtrisée. Quand on enlève un gène, on ne sait pas comment la nature va combler ce vide. Il y a des effets secondaires qui peuvent être graves. On peut toucher, en essayant d'éradiquer un gène, on peut en enlever d'autres. Enfin, pour le moment, ce n'est pas une technique au point, mais il y a de plus en plus de recherches.
Oui, comme ils disent, il y a des modifications hors cible, c'est-à-dire il y a d'autres parties du génome qui sont modifiées. Et c'est difficilement contrôlable et ça rend les organismes modifiés ne sont pas viables à long terme, quoi. Et sur le bébé parfait, c'est aussi une tendance qui rejoint un peu le débat sur la PMA-GPA. Dans nos sociétés industrialisées, le bébé devient un produit comme un autre et il faut qu'il y ait un retour sur l'investissement, donc il faut que ce soit un produit standardisé et certifié d'une certaine manière.
Efficace dans une société compétitive.
Ça rejoint un peu l'idéologie transhumaniste aussi, qui considère l'être humain comme une espèce d'instrument qui doit aussi être efficace et compétitif dans cette économie de marché.
Oui, il y a le fantasme de l'homme parfait, de l'homme augmenté, de l'homme supérieur, de la race supérieure, puisque l'eugénisme dont on parle, c'est le fantasme d'une race supérieure, ça rejoint tout un tas d'idéologies du début du XXe siècle.
D'ailleurs, il faut juste préciser aussi que l'eugénisme, c'est pas seulement les nazis qui l'ont mis en œuvre. Les premiers à avoir pris des mesures eugénistes, c'est les États-Unis en 1907, et il y avait tout un discours lié à la dégénérescence de la race, c'est-à-dire il fallait choisir mieux les géniteurs pour éviter d'une part la dégénérescence de la race pour les gens qui étaient attentifs au côté racial de la société à l'époque, et puis du côté des progressistes, des gens de gauche, c'était plus le côté il faut éviter que ces gens-là soient à la charge de la société et améliorer aussi
limiter les souffrances,
améliorer la condition sociale des classes populaires, etc.
Et d'ailleurs l'inventeur du terme transhumanisme, c'est le frère d'Aldous Huxley, qui était un eugéniste convaincu au début du XXe siècle, dans les années 30, et qui, après la guerre, après ce qui s'est passé dans les camps et la suprématie de l'idéologie nazie dans une partie de l'Europe, a inventé le mot transhumaniste, parce que le terme eugéniste était peut-être assez mal vu, quoi, à l'époque. Et alors, ce que je voulais dire, il y a tout ce programme de recherche donc sur le génome. Il se passe beaucoup de choses aujourd'hui au niveau de la science. On peut imaginer un peu que cette science est devenue un peu folle. Surtout, elle bénéficie de financements et d'investissements énormes, puisqu'on est dans une guerre économique où toutes les innovations, toutes les nouvelles technologies et toutes les innovations au niveau scientifique se traduisent tout de suite pour la création de start-up et d'éventuels marchés. Par exemple, il y a eu toute une série de prix Nobel attribués à des chercheurs qui ont travaillé sur le vieillissement, Comment ralentir le vieillissement et comment essayer de comprendre le vieillissement pour un jour éventuellement le traiter. Il y a notamment un japonais qui a eu un prix Nobel par rapport aux cellules souches. Ça, c'est une découverte assez phénoménale qui ouvre tout un tas de portes aussi. À partir de la cellule de peau d'un humain, alors on a travaillé d'abord sur les souris, sur la queue, sur la, des cellules de queue de souris, qu'on arrivait à faire régresser, à faire revenir au stade embryonnaire. Mmh. Et ce qui veut dire qu'après ces cellules, on peut les reprogrammer pour en faire ce qu'on veut au sein de l'organisme. Ça peut être un foie, ça peut être un rein, ça peut être aussi des ovules ou des spermatozoïdes. Ils l'ont fait pour les souris, et là c'est le fantasme de pouvoir le réussir sur des humains, c'est-à-dire à partir d'une cellule de peau, fabriquer des cellules souches et fabriquer en grande quantité des spermatozoïdes, des ovules. En même temps, l'autre fantasme sur lequel il y a tout un tas de recherches aujourd'hui, notamment toute la biologie de synthèse, faire des espèces de clones thérapeutiques à partir de ces cellules souches et faire des porteurs d'organes humains adaptés à chaque individu. Un individu pour avoir un clone comme ça, pas humain, mais potentiel, une réserve potentielle d'organes. Donc il y a tout un tas de recherches qui sont menées là-dessus. Donc là, on est dans de la science-fiction, mais on est en même temps en permanence à la limite de la science-fiction de la réalité, avec le projet transhumanisme.
On ne les voit pas là où on passe de branche en branche. Ils veulent que nos vies se déplacent en rang. Surtout pas que leur et nos mômes dansent ensemble. Ou pire, s'amourachent et se fréquentent sans soupir.
Ils prennent nos grosses basses pour des tambours de guerre. Alors ils nous la font, perchés sur le mic, on observe. Et ça les énerve, tout ce qu'ils attendent c'est qu'on nous muselle. Et qu'on rentre dans leur rang, si possible à grands coups de paix.
Tu sais, je vis de petits riens, leur gueule de petits saints. Veulent que moi, le petit singe, je devienne un petit chien. Alors qu'ils se fassent le beau, donne la patte et la ferme sans dire un mot, ils rapportent leur balle.
Quoi? Est-ce nos écrits qui gênent? Est-ce une question de gêne? Une culture indigène qu'ils voient comme une chose indigeste? Non, désolé, y'a pas de gun sous ma veste. Juste un cœur qui bat, qui ne veut pas qu'on le prive d'oxygène.
En volant des 4x4 avec des grosses basses dans le coffre, on est ces bêtes à 4 pattes qui font changer les modes. Ouais. Si on voulait, on pourrait même faire pencher le vote. De cette jungle, on irait jusqu'à fissurer le socle, ouais.
Ton fils aime nos sons de macaque. Ta fille aime nos sons de macaque. Leurs potes aiment nos sons de macaque. Alors mange-toi du gros son de macaque.
Ouais, c'est moi le macaque, le hip-hop et ma liane. Ouais, c'est moi le macaque, le hip-hop et ma liane. Ouais, c'est moi le macaque, le hip-hop et ma liane. Ouais, c'est moi le macaque, le hip-hop et ma liane.
Comme un cerf-volant, on veut prendre les airs. Ils se battent trop souvent, on nous somme de nous taire. Ouais, mais ça on sait pas le faire, ça les fout en colère. Alors leurs médias s'en prennent à nos sœurs et nos frères.
À l'époque on était ces ados, dans le métro, sautant les tourniquets. On a tué des guns, on n'a pas tout niqué. C'est juste qu'on était jeunes, sauvages et libres. Nos cris résonnaient dans le quartier.
Laisse-moi te dire que nos vies c'est pas de l'eau de coco, poteau. Beaucoup voudraient bien nous attacher au poteau. Poteau, face à leurs bêtises, on brandit le stylo. Oh oh, on dirait que ça va pas s'arrêter d'aussitôt.
Coco, on change l'ordre établi, désarmé. Les mots, la mitraille franche. Pas de tape à l'œil, rien qu'une paire de Nike blanches. Qui va casquer l'addition des pots cassés. Diamants de Bokassa, eux se sont déjà placés.
Ils disent y'a trop de zoulous sur les ondes. Trop de gars qui dropent des rimes comme ils dropent leurs bombes aux quatre coins du monde. À chaque seconde, un gosse tombe et leur compte grossit. Oui, tout a un prix, freedom, démocratie.
Ton fils aime nos sons de macaque. Ta fille aime nos sons de macaque. Leurs potes aiment nos sons de macaque. Alors mange-toi du gros son de macaque.
Ouais, c'est moi le macaque, le hip-hop et ma liane. Ouais, c'est moi le macaque, le hip-hop et ma liane. Ouais, c'est moi le macaque, le hip-hop et ma liane. Ouais, c'est moi le macaque, le hip-hop et ma liane.
Vous Vous écoutez Radio Zinzine, c'est l'émission Racine de Moisin et aujourd'hui on reçoit Philippe Baquet qui nous présente son livre Homme augmenté, humanité diminuée, une enquête journalistique à partir de la maladie d'Alzheimer jusqu'au transhumanisme qui donc est une espèce d'idéologie scientiste qui prétend nous faire fusionner avec les machines mais aussi par la même occasion abolir la mort et faire de la vieillesse une espèce de maladies qui seraient possibles de guérir.
Problème technique. Et en fait, là, oui, il faut quand même dire que le transhumanisme est quand même énormément associé au développement d'Internet, puisque la plupart des dirigeants des sociétés géantes du web sont des farouches, fervents transhumanistes. Ouais. Donc le transhumanisme est associé à l'histoire de la Californie par rapport à son passé contestataire. Et on en retrouve quelques traces, par exemple Timothy Leary, qui a été un des grands papes du mouvement contestataire hippie en Californie dans les années 60, est aujourd'hui un fervent défenseur de ce qu'on appelle le libéralisme libertaire. Libertarien, pardon, à ne pas confondre justement. Ça n'a rien à voir avec le mouvement libertaire et anarchiste. Donc cette idéologie est très présente en Californie et aux États-Unis, puisqu'il y a un parti libertarien, il y a aujourd'hui un parti transhumaniste aussi, je crois, puisqu'il y avait un candidat, il y a longtemps eu un candidat libertarien et là il y avait un candidat transhumaniste, peut-être que c'était le même. Et donc c'est une idéologie qui se veut au service de l'individu. Au niveau éthique, moral, ça peut être perçu comme assez ouvert, puisqu'ils vont militer pour le droit civique des Noirs américains, pour le droit, les droits des gays, des lesbiennes, pour la légalisation du cannabis, et tout un tas de choses. Mais à côté de ça, ils sont pour le port d'armes, et ils sont surtout contre toute intervention de l'État dans la vie privée, quotidienne des individus. La base de leur philosophie, c'est l'individu, tout doit être mis au service de l'individu. Et ça, on le retrouve dans le transhumanisme. Le transhumanisme est associé à cette idéologie politique. Le transhumanisme, c'est mettre toute la science, toutes les possibilités de la science au service de l'épanouissement de l'individu, de la réalisation de soi. Et c'est lié à une certaine, peut-être dévoiement, de ce qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel. Et on est à la limite en permanence entre le fantasme, la science-fiction, le New Age et une espèce de programme politique aussi, basé sur la réalisation de soi, sur la compétition et sur l'eugénisme qui est omniprésent dans toute cette idéologie. Comme il n'y a plus d'État, comme il n'y a plus de collectif, c'est les plus forts qui réussissent et qu'ils ont à leur service des prothèses bioniques ou des militaires, des robots, des cyber-robots dotés d'intelligence artificielle. C'est une philosophie assez violente qui prend tout un tas de formes. On ne peut pas parler aujourd'hui d'une idéologie bien déterminée. C'est un ensemble de croyances, je pense, qui partent un peu dans tous les sens.
Beaucoup de courants transhumanistes très différents. Il y a les extropiens, le partisan de l'homme augmenté. Il y a toute une nébuleuse comme ça. Mais le discours commun, c'est comme il y a aussi un discours qui se réfère à l'évolution. L'espèce humaine est engagée dans la lutte pour la vie. Et donc, il y a une évolution qui continue à progresser. Et le prochain stade de cette évolution, c'est la fusion de l'homme avec les machines,
c'est
avec les robots, qui va permettre à notre espèce de rester compétitive dans la lutte pour la vie. Mais en fait, par lutte pour la vie, ils entendent en fait la concurrence sur le marché capital. Et la concurrence entre les individus pour obtenir les postes et les emplois dans cette économie capitaliste.
Puis surtout, on est parvenu à un glissement au niveau de la santé. Tout à l'heure, je disais effectivement, petit à petit, c'est un glissement progressif. Moi, à travers ce bouquin, ce que je montre, je pense qu'on pourrait tirer les fils dans tout un tas de domaines et aboutir à ce transhumanisme, puisque quand j'entendais à une époque parler de transhumanisme, pour moi c'était un délire encore supplémentaire. Bon, pas de complot, mais bon, j'y prêtais pas beaucoup d'attention et de crédit, quoi. Mais là, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a quelque chose. Et en partant de la maladie d'Alzheimer, d'une médecine basée sur le tout biologique, qui a glissé vers le tout génétique, et aujourd'hui, cette médecine et la santé, ce n'est plus le tout génétique. génétique, c'est le tout donné, c'est la donnée. Tout est transformé en données qui doit alimenter le big data. Et cette donnée, c'est une limitation de l'humain qui est transformée en, qui est reprogrammée, reprogrammable. Pour moi, c'est pas de l'augmentation, puisqu'on, donc je disais, on a glissé d'une médecine qui guérissait à une médecine qui prévenait, à une médecine qui améliorait. On va aller un jour peut-être vers une médecine qui augmente, qui va augmenter au moins une partie de l'humanité, certainement pas la totalité. Pour moi, c'est pas une augmentation, c'est une réduction de l'humain. Et c'est, on glisse aussi vers, puisqu'ils rêvent, les transhumanistes, de l'immortalité. Avant, l'immortalité, c'était réservé à l'au-delà. Maintenant, c'est dans notre vie, dans la vie terrestre. On va vers une science qui devient une nouvelle religion, et l'humain devient un nouveau dieu. Moi, certains humains, oui. Que ce sera tous les humains. Puisque dans l'idéologie transhumaniste, le monde est divisé en deux. C'est très manichéen. Il y a les bioprogressistes, ce sont eux. Et en France, il y a un type qui s'appelle Laurent Alexandre. Il y a les bioprogressistes qui sont porteurs de tout, voilà, de tous les fantasmes de la fusion un jour de l'intelligence artificielle avec l'intelligence biologique qui permettra à l'humain de devenir une superpuissance cosmique. Enfin, ça, c'est Raymond Kurzweil, le chef de l'ingénierie de Google, qui a créé cette philosophie de la singularité qui est complètement délirante. Qui rêve d'un jour de cette fusion qui créera un trou noir dans les lois de la physique. Et donc, d'un côté, les bioprogressistes, et de l'autre côté, les bioconservateurs et les néoludites. Tous ceux qui s'opposent à la machine, ou même qui s'opposent, qui prôneraient un contrôle de la science et de toutes ces innovations, sont des ennemis à abattre. On n'en vient pas encore les mettre dans les camps, mais de toute façon, eux ne participeront pas à l'augmentation de l'humanité, n'auront pas leur génome nettoyé, et de toute façon, ils seront, ça revient en boucle dans pas mal d'écrits transhumanistes, ce seront les chimpanzés du futur. Dans le meilleur des cas, on les mettra dans des zoos, et dans le pire des cas, ils serviront de cobayes pour les expériences. Voilà l'idéologie transhumaniste. Alors, elle est très présente aux États-Unis, petit à petit, elle commence à venir en France, sous différentes formes. En France, il y a un mouvement qui se veut transhumaniste progressiste, qui s'appelle Technoprog. Ce sont deux individus, deux ou trois individus, hein, mais qui sont au sein d'un lobby assez efficace, puisqu'ils sont invités par tout un tas d'universités, par tout un tas d'hôpitaux. Enfin, moi, je suis allé assister à un colloque à Marseille. Ils étaient invités par les hôpitaux de Marseille et payés par la ville de Marseille. Et eux, bon, en fait, ils s'éloignent pas trop de l'idéologie transhumaniste. L'humain est aussi la matière première à reprogrammer. Sauf que, bon, voilà, ils disent nous, on veut l'immortalité pour tous. On veut que l'ensemble des personnes âgées, on enlève de leur génome le gène d'Alzheimer. Pour moi, ils n'ont absolument rien de progressiste. Il faut savoir qu'ils influencent quand même tout un tas de mouvements, puisque même dans le programme de Mélenchon, on trouve dans le dernier point de son programme une référence à des fonds destinés à l'augmentation de l'humain. Ils ne remettent absolument pas en cause notre modèle de société et la croissance, avec tous les dégâts collatéraux dont elle est porteur. Par exemple, pour lutter contre le réchauffement climatique, ben eux, il n'y a qu'une seule réponse, c'est la géo-ingénierie. Pour permettre à l'humain de vivre dans un environnement de plus en plus dangereux, ben on va intervenir grâce aux cellules souches, permettre à des humains de supporter plus de chaleur et d'avoir besoin de moins d'eau. On va créer des OGM pour les nourrir. On va créer aussi de la viande artificielle à base de cellules souches, dans des usines. Il n'y aura plus d'animaux, ce sera de la viande créée en laboratoire. Ils rêvent effectivement des usines à bébés et tout ce qu'on a pu évoquer. Il y a un autre courant qui est beaucoup plus dangereux en France, et qui est porté par un individu, mais certainement par d'autres aussi. Lui, il s'appelle Laurent Alexandre, donc, qui est omniprésent dans les médias, qui est quelqu'un qui est très influent. C'est un médecin, mais qui n'exerce plus, qui avait créé le site Doctissimo, qu'il a vendu 140 millions d'euros à Lagardère. Avec ça, il a créé la plus grande société de séquençage, l'une des plus grandes sociétés de séquençage génomique d'Europe, installée en Belgique pour ne pas payer d'impôts. Il a racheté tout un tas de start-up destinées donc aux nouvelles technologies. Tous les mois, il a une chronique dans Le Monde, dans la revue Oui Demain. Il passe même pour un libre penseur, parce qu'il est porteur et il s'en réclame de l'idéologie du libéralisme libertarien. quand on voit effectivement le rapport de Cédric Villani sur l'intelligence artificielle, pour moi c'est un rapport qui aurait pu être écrit par Laurent Alexandre, puisqu'il ne faut plus de régulation, il ne faut plus de contraintes administratives, il ne faut absolument plus de comités d'éthique qui ralentissent la recherche, il faut en finir avec le principe de précaution, il faut foncer, on est dans une guerre économique, il faut aller vers la disruption, c'est un terme très à la mode, disruption c'est tout ce qui est innovant, tout ce qui est le plus innovant possible, qui va faire du buzz, qui va capter des capitaux, qui va permettre la création de dizaines de start-up, et il faut surtout pas réfléchir, parce que si on réfléchit, on perd du temps, et on perd des marchés. Donc voilà, Laurent Alexandre est porteur de tout ça. Et malheureusement, moi par exemple, ce que je cite régulièrement, parce que je trouve ça choquant, la banalisation des propos de cette personne, il a sorti deux livres, trois livres, moi j'ai lu « Tuer la mort », il vient de sortir « La guerre des intelligences », il a sorti une espèce d'horreur de livre de science-fiction, c'est « Adrien 2.0 ». C'est pas moi qui le dis, c'était un commentaire que j'ai lu sur Internet, qu'il aurait pu être écrit par un monsieur avec une petite moustache au début des années 30. C'est un livre excessivement misogyne, raciste, révélateur de cette idéologie. Alors juste... Et on va peut-être pas finir là-dessus, mais je voudrais quand même citer, puisque je le cite tout le jour, il faut savoir. Moi, je vis en Aquitaine. En Aquitaine, donc, il y a une université de la singularité qui va être créée, donc une université transhumaniste. Mm. Il est donc ami d'Alain Rousset, le président de la région Aquitaine. Et donc, son influence grandit, alors, très certainement, grâce au club qui s'appelle Le Siècle, dont il est membre, et qui est un club en France très fermé. Je vous invite à voir le film Les Nouveaux Chiens de Garde, qui en parle, qui a fait une enquête dessus, et qui réunit toutes les élites, entre guillemets, économiques, politiques et médiatiques. Tout ce monde clos qui prend toutes les décisions et qui gère nos vies. Donc voilà. Alors, juste un extrait de la pensée de ce monsieur. Lorsque les technologies d'augmentation des capacités intellectuelles, du coefficient intellectuel vont arriver, les parents qui ne les utiliseraient pas pour leurs enfants feraient d'eux des parias, des marginaux. C'est un problème politique majeur. Mais la biopolitique et la neuropolitique sont le cœur de la politique du XXIe siècle et vont devoir répondre à ces questions pour lesquelles aujourd'hui nous n'avons pas de réponse. La coexistence entre des gens extrêmement intelligents, et je pense que lui, il est persuadé qu'il en fait partie, grâce à la technologie, et des gens qui ont des capacités intellectuelles moyennes, ne peut pas être harmonieuse. Y a-t-il cohabitation harmonieuse entre les hommes et les chimpanzés ? Non, nous les mettons dans des zoos. Voilà, ça c'est un extrait, pas le pire de ses écrits.
Oui, il y a tout un tas de déclarations transhumanistes un peu de ce genre-là aussi. Il y avait Kevin Warwick aussi qui s'est transformé lui-même en cyborg et qui déclarait que ceux qui refuseront de se faire augmenter seront les chimpanzés du futur.
Ils sont obsédés par les chimpanzés.
Oui, visiblement. Cette déclaration a déjà d'ailleurs inspiré le groupe PMO Pièces et Main d'œuvre de Grenoble qui a écrit un livre qui s'appelle Manifeste des chimpanzés du futur. Ils ont perturbé aussi un colloque sur la biologie de synthèse. C'était il y a quelques années
avec des masques de chimpanzés
avec des masques de chimpanzés aussi plutôt, ouais, ils ont retourné cette citation contre les transhumanistes.
C'est moi le macaque, le hip-hop et malien.
Après, on pourrait dire une décennie où les médias enfin même continuent encore aujourd'hui à faire la promotion du transhumanisme. Il y a de plus en plus de publications un peu critiques là-dessus, donc il y a ton livre « Homme augmenté, humanité diminuée ». Là, tout à fait récemment, il y a Mark O'Connell, c'est un journaliste irlandais qui a publié déjà un livre là-dessus en anglais, mais qui vient d'être traduit en français aux éditions L'Échappée, « Aventure chez les transhumanistes, cyborgs, techno-utopistes, hackers et tous ceux qui veulent résoudre le modeste problème de la mort ». C'est le sous-titre, donc aux éditions L'Échappée... Là aussi c'est une enquête journalistique où le Mark O'Connell a été visiter un certain nombre de transhumanistes, pas tous mais un certain nombre en tout cas, et ça se termine en road movie, donc avec le candidat transhumaniste aux États-Unis pour la présidentielle aux États-Unis en 2015 qui parcourt les États-Unis dans un camion qu'il a transformé en cercueil en disant qu'il ne souhaite rien tant que de devenir une machine pour enfin être éternel, etc. Sauf que son camion, il est même pas foutu de réparer le ventilateur et changer les freins. C'est vraiment un road movie très drôle. Chez Marc O'Connell, il y a une attention aux petits détails qui tue, on pourrait dire, qui montre que les transhumanistes sont quand même...
un peu dérisoires.
Ouais, un peu dérisoires, un peu ridicules parfois, voilà. Et souvent
mais
même...
Mais dangereux, dérisoires, mais dangereux.
Mais dangereux quand même, néanmoins.
Ouais. Elon Musk, qui rêve d'aller coloniser Mars pour échapper à l'intelligence artificielle, qui est l'un des principaux promoteurs, qui a réussi à créer une entreprise, une société, une industrie pour faire des fusées. Il en a balancé une il y a 3 semaines ou 1 mois, Et un autre livre moi, que j'ai beaucoup aimé, c'est un roman, hein, c'est Pierre Ducrozet, qui s'appelle L'invention des corps. Très beau livre. Et qui reprend tout ça, tout ce dont on a parlé, mais sous forme de roman. C'est très bien écrit, c'est percutant, avec une fin positive. Parce que, voilà, où les hackers prennent. Les hackers vengeurs.
prennent le dessus sur les transhumanistes.
Sur les transhumanistes. Voilà, il y a d'autres. Il y a ton livre.
Sur Les êtres vivants ne sont pas des machines, paru aux éditions La Lenteur. Cette année, au début de cette année 2018. Je parle du transhumanisme incidemment parce que le fond de la biologie moderne qui considère les êtres vivants comme des machines, et donc les transhumanistes logiquement poussent cette logique de l'être vivant comme machine et de l'être humain comme ordinateur à son ultime, ses conséquences les plus délirantes et les plus absurdes. Mais voilà, c'est une tendance qui est assez lourde dans la société capitaliste et industrielle moderne, c'est-à-dire d'essayer de faire entrer tout ce qui existe dans cette machine de production et de distribution des marchandises, quoi.
Oui, mais c'est intéressant, c'est justement pour montrer que les transhumanistes, en fait, ils ne sont pas partis de rien, quoi. Ils ont leurs racines dans des tendances lourdes de la science, qui sont aujourd'hui hégémoniques, et qui sont dangereuses. Aussi dangereuses, parce que peut-être qu'un jour, le transhumanisme, on n'en parlera plus du tout. Une autre idéologie aura pris la relève, parce que le capitalisme a besoin de toujours se renouveler pour conquérir de nouveaux marchés. Voilà, mais en tout cas, le fond restera, quoi.
D'une certaine manière, on pourrait dire que le transhumanisme, c'est la dernière utopie, le dernier projet d'avenir que le capitalisme est capable de mettre en avant. C'est une espèce de rêve qui tourne facilement au cauchemar. Ceux qui défendent ce genre d'idéologie, c'est la preuve réellement d'une espèce de déshumanisation et de perte des repères culturels et humanistes qui avaient pu émerger dans les siècles précédents. Ça aussi, c'est un sociologue québécois qui a fait un livre aussi qui s'appelle L'homme amélioré, des lumières au transhumanisme, qui explore justement cette transformation de la volonté d'améliorer l'être humain, des lumières où c'était le changement social qui était dominant, l'idée d'un changement social qui était capable d'améliorer l'homme, de le rendre meilleur, en tout cas moralement et politiquement, et jusque de nos jours où c'est plus que la technologie qui, soi-disant, pourrait augmenter l'homme du point de vue biologique et des performances techniques.
Mais ce que je trouve très pertinent dans ton livre, c'est une analyse que tu fais qui se résume dans une phrase, c'est que à tous les problèmes sociaux et politiques aujourd'hui, on répond uniquement par une réponse biotechnologique.
C'est plus simple à mettre en œuvre, et les désastres qu'elles engendrent ouvrent de nouveaux marchés pour la médecine et pour bien d'autres choses de ce genre.
Oui, tout à l'heure, je parlais du livre de Jacques Testard. Alors, Jacques Testard, c'est l'inventeur du... Enfin, l'inventeur. Celui qui a mis au point... le premier bébé, justement, éprouvette, qui a mis au point la technique de la fécondation in vitro en France, et qui est devenu aujourd'hui un des principaux opposants aux transhumanistes et avec une vision très critique de la science. Donc, il vient de sortir un livre avec une journaliste de Mediapart, mais je n'ai plus le titre en tête. Après, il y a beaucoup de littérature qui sont très ambiguës.
Jules Ferry, oui, a ressuscité.
C'est pas Jules Ferry.
Luc Ferry, oui. Qui a fait l'apologie du transhumanisme.
Voilà. Luc Ferry, oui, dans un livre, je ne me souviens plus le titre aussi, sur le transhumanisme. On le banalise et on fait l'apologie. Et moi, incidemment, dans mon enquête, je me suis rendu compte que ce monsieur faisait partie du même club que Laurent Alexandre, le club Le Siècle. Après, il y a des philosophes qui sont très ambigus, Jean-Michel Besnier, par exemple, qui a écrit 2 ou 3 livres, mais qui en même temps, ce qui me dérange, c'est qu'il participe énormément à des débats, il donne une certaine reconnaissance à un type comme Laurent Alexandre, en participant à des débats, et puis en traitant d'égal à égal, en disant mon cher, ils font partie du même monde. Ils ont même sorti un livre avec un titre complètement débile, c'est Les robots font-ils l'amour. Une façon de banaliser encore cette idéologie, tout en lui apportant comment dire, une certaine contradiction, mais très limitée, et c'est très décevant.
Mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir dans d'autres émissions de Racines de Moisins, parce que moi j'ai récupéré quelques conférences de différents personnages qu'on a cités et d'autres encore. C'est un sujet assez vaste et complexe, mais on aura l'occasion d'y revenir par bien d'autres biais. Et donc sur ce, ben, à la prochaine.
À la prochaine, ouais.
Racines de Moisins, une émission de critique des sciences, des technologies et de la société industrielle, présentée par Radio Zinzine.